Bah, tu parles.
C'est
alors.
Bien. Ouais, c'est que d'abord en français, puis après elle va le lire en hébreu pour voir si ça
fait. En grec.
Oh, ça fait.
Bon, dites-moi, alors, je peux avoir vos résultats de vos travaux d'atelier là?
On a un porte-parole ou un
personnage? Monsieur le secrétaire,
Alors, en ce qui concerne donc la lettre d'Ignace d'Antioche, ce qui est conforme au credo, c'est ça?
Oui.
Donc, Jésus-Christ, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et mort. Le passage suivant, peut-être le laisser, j'y reviendrai, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui aussi le Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ. Mmh. Ensuite, les différences. Mmh. Jésus-Christ de la race de David, mmh. Qui a mangé et qui a bu. Le passage donc, que je citais à l'instant, au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est un peu différent, ça dépend quel texte vous prenez entre le symbole des apôtres.
Ben nous, on n'en a qu'un.
Des enfers, voilà.
Nous, on n'a pas le symbole des apôtres, on n'a que Nicée et Constantinople.
Et aussi le mot au regard qui m'a un peu gêné, un peu
tranché. Oui, mais alors là, c'est le problème des traductions.
Bon, on va passer. Le passage aussi différent, c'est son père qui l'a ressuscité, qui ne se trouve pas dans le credo. Et enfin, toute la fin. Au sujet des athées, qu'il y a des infidèles.
Il n'a souffert qu'en apparence.
Voilà, qui a l'impression que c'est plutôt la théologie négative, là, qui est tout à fait étrangère au credo.
Bon, très bien. Très bon résumé. Les autres, vous avez d'autres choses à ajouter?
Non.
Oui, alors, ajouter, oui. On parlait de ce qui n'y était pas.
Oui.
L'Esprit Saint.
Oui, l'Esprit Saint n'y est pas, très bien.
Le baptême.
Hein? Le baptême. Le baptême n'est pas.
Ouais.
Oui.
Engendré par le Père, ça n'est pas.
Voilà, engendré.
Il dit son Père,
oui.
Il dit pas notre Père. Mais bon,
oui.
Ça, c'est dans les modifications.
Oui.
Oui. Il n'y a pas de référence à l'Église avec la parole.
Oui, très bien.
Oui, il n'y a pas de la fin du credo.
Ni de référence à la résurrection de la chair. Ni au jugement dernier.
D'accord.
Le récit.
Oui.
À sa ressemblance.
Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas spécifiquement.
On l'a senti différemment.
Ouais.
C'est pas spécifique.
Ouais, ouais, c'est
pas assez clair.
Ça, c'est vrai. Ouais, très bien.
Je peux poser une question?
Oui.
Vous dites qu'il dit son père et pas notre
oui.
père.
Oui.
Mais dans le credo, il n'y a pas notre père.
Non.
On dit il procède du Père.
Il procède du Père.
Je crois qu'il n'y a pas. C'est pas noté là.
Il y a tout à fait.
Oui. Dans le credo, non.
Non, pas dans le credo. Non. On a fait un petit amalgame avec le Notre Père. Je suis d'accord.
Oui. Fils unique du Père, oui.
Fils unique du
oui,
Père.
Du Père.
Et vrai Dieu de vrai Dieu, c'est-à-dire que là,
oui, oui mais il y a quand même véritablement. Il y a le mot véritablement.
Alors, oui, mais.
Véritablement crucifié et mort,
mais
véritablement ressuscité notre
Église.
Il y a le mot, voilà, il y a quelque chose de véritable.
Voilà, il y a cette notion de véritable parce que.
Mais il n'y
a pas de vrai Dieu de vrai Dieu,
voilà,
il n'y a pas
c'est
encore.
Ça, il n'y a pas de vrai Dieu de vrai Dieu.
Il n'y a pas encore. Oui. Ouais.
En gros, ce qu'on a dit aussi, c'est que la fin du credo, alors oui. Père, il n'y est pas.
Oui,
la dernière partie, totalement.
Les deux dernières.
Je pense que c'est la partie la plus tardive.
Les deux dernières.
Ouais. Ouais. Je pense que c'est la partie la plus tardive. Ouais. Ouais. Très bien. Et est-ce que vous sentez, par rapport à. Il y a une question où on sent qu'il est en train de pointer un problème de son époque. Voilà.
Ah oui, oui, oui. Les infidèles. Ça, c'est très important. Ça, tu n'aurais pas interrogé là-dessus.
Non.
Ah
mais
bon, d'accord.
On le fait maintenant. À moins qu'il y ait d'autres choses encore à dire. D'autres groupes qui veulent dire quelque chose. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est...
Mais c'est la dernière phrase, effectivement.
Voilà. Donc c'est l'idée...
Il n'existe qu'en apparence.
Il n'existe qu'en apparence. Il n'a souffert qu'en apparence. Il n'existe même qu'en apparence. Donc moi pourquoi je suis enchaînée, donc d'ailleurs de dire voilà il est en train de marcher vers le martyr, je ne veux pas vers le martyr pour un truc en apparence quoi. Hein, voilà donc je pense que c'est très important. Et puis, je voudrais vous mettre aussi un tout petit peu en alerte sur la formule race de David.
Donc, ah, on s'est
on vous parle. Donc, soyez sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie.
Oui.
Ça vous dit rien, cette formule, fils de Marie ?
Mais c'est parce que c'est par Marie qu'il est qui descend de David.
Oui, mais est-ce dans le credo qu'est-ce qu'on dit ?
Voilà. Et c'est fait homme.
On insiste plus sur fils de Dieu que fils de Marie.
Voilà. Donc là, on est vraiment dans. On est chez les Antiochiens là. Il y a d'Antioche. Et vous savez que les Antiochiens sont ceux qui vont beaucoup insister sur l'humanité du Christ. Parce que justement, il y avait aussi un enjeu. C'était pas en apparence. C'était pas une humanité en apparence, c'était une vraie humanité.
Juste, elle est très objective, parce que pour ceux qui ne le savent pas, elle est antiochienne.
Oui, moi je suis antiochienne.
C'est aussi un lien avec, avec l'Ancien Testament, ça.
Oui, et race de David aussi.
C'est la continuité.
Et en fait, voilà. Et en fait, quand il dit race de David, en fait, il rappelle simplement la généalogie des évangiles, hein, où on dit, voilà, descendant de David, et dans, voilà. Donc ça c'est. Donc, vous voyez déjà c'est intéressant. Et alors pour le deuxième texte. Je le trouve.
C'est pas un rapporteur.
Je ne sais pas si je l'ai là.
Ah
quoi,
ça là.
Ah oui, oui.
Alors, le deuxième texte, qu'est-ce qui veut se lancer ?
On a trouvé que ça parlait pas mal de l'Eucharistie quand même, d'autant que c'était marqué au début.
Oui.
Mais ce qui nous a intéressé, indépendamment de ça, donc ça parle de l'Eucharistie, ça évite la pénitence, ça aborde, pardon, la question du repentir et de la pénitence, mais pas véritablement dans une perspective du sacrement concerné. Par contre, il y a toute la structure de la prière, et puis de la prière liturgique, de l'anamnèse et tout ça, quoi. Et les formulations, d'ailleurs, sont très proches, hein. Puis le pain fut rompu, nous rendons grâce, voilà. On a des formules qui sont très proches de ce que l'on dit encore aujourd'hui.
Il dit plusieurs fois ton enfant et non ton fils.
Voilà, c'est vrai. C'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai qu'on avait remarqué ici qu'il est dit pour la sainte vigne de David, puis pour le pain rompu. Il dit que de même que ce pain que nous rompons autrefois disséminé sur les collines.
Alors, c'est quoi ça ?
C'est l'oubli. Justement, l'histoire disséminée sur les collines a été recueilli pour n'en faire plus qu'un.
On a peut-être supposé que ce serait l'image de la manne disséminée sur les collines.
Alors, qu'est-ce que dit le prêtre dans l'anaphore actuelle.
Qu'est-ce que dit le prêtre ? Ça, c'est une bonne idée.
Bonne question.
Quand je suis à terre, je le sors de mais comme ça, là.
À
quel moment tu peux dire ?
Si ma mémoire est bonne, c'est dans une des deux anaphores.
Oui.
On va la trouver, hein. Moi, je l'ai là.
Je l'ai sauvé, oui, volontiers.
Mais moi, je trouve ça très intéressant cette histoire est disséminée.
Oui.
Parce qu'on a le sentiment de quelque chose qui.
Est-ce que ça parle du peuple ?
Est-ce que ça parle de la dissémination des gens qui se.
Voilà, voilà. Et donc il y a l'idée que l'Eucharistie est une et que le peuple de Dieu est un. Et que donc. Et que c'est l'Eucharistie qui rassemble la communauté. Et que donc il y a un même mouvement. J'ai envie de dire des miettes, des miettes d'un pain, un même mouvement qui se rassemble pour faire un seul pain, et de la même manière le corps de Christ,
ce pain que nous rompons autrefois disséminé sur les collines.
Ouais. Mais bon.
Le pain rompu autrefois disséminé.
Ouais.
Disséminer, pas dissimuler. Non, mais on peut aussi, ouais. Mais ça, c'est tant que les voiles n'ont pas été enlevées.
J'avais une vue plus pragmatique.
Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'à la fin de chaque séquence, il y a un bout d'ekphonèse que nous retrouvons in extenso quasiment dans nos prières actuelles.
Alors, par exemple, quel bout d'ekphonèse ?
Car à toi, c'est la gloire et la puissance dans le ciel.
Voilà. Gloire à toi, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, hein, dans les siècles des siècles, dans les toujours. C'est-à-dire quand gloire à toi et la puissance, encore gloire à toi, la puissance et gloire dans les siècles, il n'y a pas toujours les siècles, mais si on prend les trois, on a à peu près tout ce qu'on dit dans toutes les écoles. Voilà. Alors quel morceau ? Nous t'offrons encore ce culte spirituel et non semblant, nous t'invoquons ton règne. Alors, ça me fait penser à autre chose, moi, mais parce que c'est une découverte très simple pour moi, c'est pour ça que j'en parle. Dans la façon dont les saints dons sont consacrés dans la liturgie de Saint-Jacques, qui se fait d'une façon différente, puisque les fidèles communient sous les deux espèces distinctement.
D'accord.
D'abord au corps et ensuite au sang.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un morceau de pain, puis ils boivent le sang. Voilà. Et là, il me semblait lire là-dedans ce distinguo qu'il y avait dans la façon dont on parlait d'abord du pain. Nous te rendons grâce pour la connaissance que tu as, gloire à toi. Et ensuite, on parle du vin.
Alors, est-ce qu'on parle du pain d'abord ?
Non, on parle du vin d'abord. D'abord du vin. Et nous, on parle du pain d'abord.
Voilà.
Voilà.
Alors, pourquoi on parle d'abord du calice ?
Du calice.
Au sujet de l'Eucharistie, rendez grâce ainsi, d'abord pour le calice, nous te rendons grâce notre Père, etc. Pour la sainte vigne de David, son serviteur, puis pour le pain rompu.
D'abord pour le calice.
Le vin et le sang, c'est la preuve de sacrifice, ils sont unis, et que quand on donne son sang, on donne sa vie.
Oui.
Je sais pas. Et que le pain, c'est plus le corps.
C'est le Seigneur, non, le calice,
je disais que c'était peut-être une trace d'une pratique historique de l'époque.
Oui, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, ils sont juifs.
Voilà.
C'est pas plus bête que ça. Ici, on est dans un contexte judéo-chrétien, c'est-à-dire des chrétiens juifs. Et comment ça se passe, ce qui serait l'ancêtre de l'Eucharistie chrétienne, dans ce qu'on appelle dans le judaïsme le kiddush, c'est qu'on bénit d'abord le vin et ensuite le pain. Tout simplement.
Sauf que, si je me trompe, par exemple, dans Saint Paul, quand il me rappelle, il parle d'abord du pain, il reprend le même schéma que la scène du Christ.
Oui.
Le pain d'abord, le vin après.
Alors vous savez comment ça s'est passé à la scène ?
Et pourquoi on ne l'a pas gardé justement ?
Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'à la scène il y a les quatre coupes et il y a la cinquième.
Oui, ça c'est vrai.
Et que entre les quatre coupes et la cinquième, il y a le pain. En fait, Jésus a béni d'abord les quatre coupes. Donc la scène, si c'est l'ancienne. Si Jésus, alors là c'est encore plus compliqué, mais on ne va pas entrer dans ce débat, c'est trop compliqué. Si la scène du Christ est vraiment le repas pascal, ce qui est un débat énorme, il y a les quatre coupes, et puis il y a une cinquième coupe qui vient totalement au terme. Bon. Et d'ailleurs chez Luc c'est très précis, parce qu'il y a d'abord une coupe et ensuite une autre coupe. Et donc, ce qui est devenu la sainte scène chrétienne, l'Eucharistie, c'est le pain et la dernière coupe. Mais en fait, le vin, il est béni avant. Mais ce n'est pas la première partie de ce qu'on appelle le céder pascal qui est devenu l'Eucharistie, c'est la fin. Ah. C'est pour ça, tout simplement.
Parce qu'au début, c'est la coupe de bénédiction.
Voilà, c'est la coupe de bénédiction. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire que alors il faudrait faire toute une étude sur le repas pascal, mais il y a une tension eschatologique dans le repas pascal, et que cette tension, elle va se manifester plus vers la fin du repas qu'au début. Au début, on est dans le rituel ordinaire, où on va bénir une coupe.
Le rituel juif.
Voilà, le rituel juif. Pourquoi est-ce qu'on bénit une coupe ? C'est parce qu'il n'y a pas dans le judaïsme de possibilité de sanctifier une fête comme ça. On ne sanctifie pas comme ça. Parce qu'une fête, c'est quoi ? C'est du temps, et du temps, il n'y a pas de matérialité. D'accord ? Donc, la manière de sanctifier une fête, c'est toujours sur une coupe de vin. Toujours, parce que la coupe de vin, est une matérialité sur laquelle on peut sanctifier. Voilà. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et là, pour moi, c'est très clair que dans ce groupe-là que reflète la Didaké, dans ce groupe, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore complètement fixe par rapport à voilà, avant, après. Et que apparemment, ce n'était pas plus embêtant que ça au départ. On est à la fin du 1er siècle, hein, c'est très très tôt. Et que donc, il y avait des groupes qui gardaient la façon totalement juive de faire. Donc le vin, on sanctifie la fête et puis le pain. Et voilà, et qui ont fait de ça leur Eucharistie. Comment c'est exactement vécu, bon, on ne sait pas, on n'a que ces textes. Hein, mais bon, c'est quand même très intéressant. Et qu'ensuite, ça s'est stabilisé dans l'Église en mettant d'abord le corps, le pain, et ensuite le vin.
Alors, j'ai une question accessoire.
Mais je ne sais pas forcément répondre, hein, parce que c'est pas...
Dans le cas du judaïsme, pourquoi on a choisi dans le judaïsme de bénir la coupe et non pas du pain?
Mais si, ils bénissent le pain, mais après...
Mais pourquoi pas d'abord le pain et après la
parce
coupe,
que, c'est ça que je voulais dire. Oui, parce que le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est-à-dire que le vin est une surabondance. Le vin n'est pas nécessaire à la vie. C'est pas nécessaire. La fête n'est pas nécessaire en soi. Bien que si on n'a pas de fête, on ne peut pas vivre une fête. Ah, c'est et c'est pareil pour le vin. Ouais. Et qu'il y a un lien entre le vin et le mystère. Parce que Yaïn en hébreu, c'est la même gématrie que le sod. Le sod, c'est ce qui est mystérieux, ce qui est de l'ordre du mystère. Alors, le mystère, c'est bien le mot qu'on va employer, nous, pour dire les saints mystères.
Les saints mystères. Ouais.
Donc, avec toute l'idée du mystérion, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est lié à voilà, cet aspect de surabondance. Si un homme ne boit pas une goutte de vin de toute sa vie, il se débrouille. Quoi. Oui. Par contre, s'il ne prend pas de pain, il meurt. Pourquoi ? Parce que le pain, en tout cas le mot lechem en hébreu et en arabe jusqu'aujourd'hui, c'est non seulement le pain qu'on mange, mais c'est la nourriture en fait. Au départ même, certains même disent, il y a très longtemps, ce mot lechem voulait dire la viande. La viande.
Vous voyez, comment tu le dis ?
Lechem.
Lechem, c'est lechem. En arabe,
c'est la viande. Hein, voilà. Donc c'est pour montrer que c'est la nourriture la plus substantielle. C'est-à-dire, on a besoin de... Et donc, on ne peut pas vivre sans. Donc, ça fait partie des choses qui sont essentielles. Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui va mettre la fête. La fête, ce sera le vin. Bah, d'ailleurs, Cana, tout nous le montre, hein, qu'il n'y a pas de fête sans vin. Et que donc, c'est le vin qui est le plus important. Puisque sinon, c'est du jour ordinaire. On est dans les jours ordinaires. Or, l'Eucharistie est une vraie fête. Donc, oui.
Il y a une petite phrase qui elle est sortie un peu du contexte, mais moi je la retrouve dans la prière qui annonce la lecture de l'Évangile. Fais briller dans nos cœurs, Maître, ami des hommes, la pure lumière de ta divine connaissance. Et là, on a fait habiter dans nos cœurs pour la connaissance. Donc, on retrouve vraiment dans nos liturgies
des morceaux
qui ont été récupérés. Et quand on sait que la liturgie s'est structurée probablement 5, 6, 7 siècles plus tard, de façon un peu définitive, la façon dont on est. Dans l'office que l'on célèbre, dans la divine liturgie qu'on célèbre, est fondée dans les pas du Christ, quoi, parce qu'on y est là encore, on est entre 60 et 120, quoi, on est encore dans le... Ça, c'est quand même impressionnant.
Il y a plusieurs temps, Chrysostome.
C'est
Bien sûr.
Mais c'est là où on voit à quel point ils nous ont vraiment bien transmis, parce qu'il y a quand même eu 3 siècles entre temps. Et en 3 siècles, on peut les perdre, les choses.
Si on se remet dans notre époque.
Voilà, là on aurait perdu depuis longtemps. Voilà. Et donc c'est là où c'est. Moi je trouve ça, mais. Je suis mais saisie, quoi. Saisie.
Il faut dire qu'il y avait aussi toute la tradition de l'Ancien Testament.
Oui, ben c'est ce que j'explique.
Des millénaires.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Ce que tu disais d'ailleurs, c'est que cette idée de la façon dont le monde nous a. Dont Dieu avait créé l'homme pour le. Et lui confier la création.
C'était à propos, c'est pas parce que j'ai.
Tu lui as donné jouissance.
De jouissance. Ouais. Parce que là, on est hors Eucharistie. Et je sais plus bien.
Alors, bon, pour ce mot de jouissance, c'est intéressant parce que moi, je le replace encore dans le contexte judéo-chrétien. Dans le monde juif, vous allez peut-être être un peu choqués, mais finalement, pas vraiment, parce que c'est pas très loin, pas si loin que ça de la tradition, en tout cas, de l'Orient chrétien. Dans le monde juif, un homme qui n'a pas joui de quelque chose que Dieu a béni pour ça, sera condamné au jugement dernier en disant ça, c'était pour ta jouissance et tu n'en as pas joui. Mmh.
Donc tu m'as refusé en fait.
Donc la jouissance est d'une extrême importance. Mmh. Une jouissance cadrée, une jouissance juste. Mais, non mais c'est très important, quoi. C'est fondamental. Alors que nous, enfin en tout cas dans l'Occident, hein, on est là, on se mortifie, machin, mais Dieu ne veut pas la mortification. Dieu ne veut pas la mortification. Oui.
Alors ça, c'est aussi...
Ça, c'est capital.
Alors,
c'est capital.
Ça, c'est aussi une différence de la tradition orthodoxe qui se veut d'une joie parfois voilà. un peu exubérante, ouais. avec ce qui a été un travers de nos frères catholiques d'une époque, avec tout le courant suspicien, voilà. oh là là, mon Dieu, je suis méchant, laisse-moi me fouetter, non, je veux dire, et, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein?
Mais alors, ce qui est très important...
Je dis bien d'un courant, parce que c'est pas l'Église catholique. Hein,
ce qui est très important, c'est que comme la tradition juive connaît l'aspect débridé de la nature humaine, premièrement, la jouissance est encadrée.
Oui, il ne faut pas aller trop loin.
Voilà, premièrement, elle est encadrée. Et deuxièmement, on n'a pas le droit de jouir si on n'a pas béni.
Ah oui.
Et un homme, avant de s'unir avec sa femme, bénit, fait une bénédiction particulière.
Donc il y a un code de jouissance.
Dans le film Kadosh, on le voit bien.
Donc, avant de jouir d'un bon vin, on bénit le vin. Avant de jouir de... Quand on voit un arc-en-ciel, on a une bénédiction pour voir, parce qu'on regarde l'arc-en-ciel. Pour toute chose. Voilà, c'est... toute la beauté, la jouissance du cosmos, on a des bénédictions pour beaucoup de choses. Quoi. Donc ça montre l'importance de la jouissance.
Quoi. Que l'on peut faire parfois instinctivement. Beaucoup de gens disent « j'ai été à tel moment, dans telle situation, et j'ai dit gloire à Dieu ».
Voilà, c'est ça.
Je pensais, c'est comme quand tout d'un coup, de manière même fugitive, on se sent touché par une petite forme de grâce. Moi, j'ai un tout petit exemple assez naïf. J'ai un rouge-gorge qui vient tous les jours. Sur ma terrasse. C'est une manière de me réjouir, je rends grâce. C'est dans les petites choses, c'est pas forcément dans les grandes.
Tout à fait.
Mais j'aime bien voir le rouge-gorge sur le bord.
Ouais. Mais eux, ils ont des formules codifiées, courtes, qu'ils connaissent par cœur. Dans chaque situation, il y a une formule précise.
Il y a une formule pour le rouge-gorge.
Oui, il y a une formule pour le rouge-gorge. Il y a une formule pour l'arc-en-ciel, il y a une formule pour le vin, il y a une formule pour l'eau, il y a une formule pour...
Et on retrouve cette tradition dans notre...
Il faut que ça parte du cœur. Dans notre
grand collage.
Voilà.
Où nous avons des bénédictions pour tout. Pour un puits qui a été souillé, pour un enfant qui rentre à l'école, pour... le début d'une nouvelle entreprise, un nouveau travail, pour un rucher, pour un nouveau puits qui n'est pas la même que celle pour le puits qui a été souillé, pour un essaim d'abeilles. Enfin, moi, au début, je suis resté assez émerveillé par ça.
Et d'ailleurs, on ne les utilise pas suffisamment.
Pour partir en voyage. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, quand vous partiez, on découvre ça et on dit, mais qu'est-ce que c'est beau, en ce sens de qu'est-ce que ça nous...
Ça nous reconnecte
immédiatement avec finalement voilà et ça c'est avant une intervention musicale avec ces choses là
et c'est là où on voit que finalement notre regard suspicieux sur le judaïsme avec ses petites lois et ses petits machins, c'est du mensonge. C'est du mensonge parce qu'en fait, ces petites lois et ces petits machins, c'est sans arrêt ce type de bénédiction ou un certain nombre de choses à faire, mais qui nous reconnecte sans arrêt avec le Dieu de l'Alliance. C'est pas comme ça pour s'amuser, quoi. Et que donc, c'est une reconnexion concrète, charnelle, incarnée, qui en fait, on en a vachement besoin. Sinon, on oublie, on tombe dans l'oubli. L'oubli étant pour les saints-pères la forme la plus détestable de l'oubli de Dieu, d'être coupé de Dieu, précisément. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la manière dont on parle de notre source juive dont on a hérité, mais excusez-moi, mais 90%, quoi. C'est énorme, quoi.
Et on voit dans la didaque comment il y a plein de louanges à tout bout de champ pour ceci, pour cela. Moi, ça m'a émerveillé de trouver comment le cœur était toujours en louange.
Voilà, c'est ça.
En accord avec la science. C'est beau que c'est beau.
Ouais, tout à fait. Oui, t'avais quelque chose à dire.
Non, j'avais du mal depuis, vous savez, les uns les autres, vous savez, je suis pas un vieux prêtre dans le sacerdoce. Et j'étais toujours un peu choqué des prières de bénédiction pour la femme après les relevages.
Béni, merci de m'avoir de pas m'avoir fait femme. Enfin, il y a un truc comme ça.
Voilà. Non, mais il y a une prière après les relevages. Qui font penser que la femme a quelque part a été impure autour de cette idée d'enfantement, etc. Et en fait, mais c'est un ressenti. Je me suis rendu compte que cette bénédiction était une espèce de prière de réconciliation par rapport à ce qu'a souffert la femme, qui souvent l'a fait s'éloigner. Y compris de Dieu. Elle souffre le martyr, elle se dit qu'elle reproche mille fois d'avoir couché avec son mari pour se retrouver dans cette situation.
Eu la bénédiction.
Voilà. Malgré tout. Et à un moment donné, on lui dit, voilà, cette parenthèse est finie, tu es béni pour ça, tu peux continuer dans le troupeau. Et voilà.
Alors moi, j'ai envie d'ajouter deux choses.
Oui, vas-y.
La première, c'est que le mot impur ou impureté dans le cadre liturgique n'a rien à voir avec sale, etc. Voilà. Ça n'a rien à voir.
Ça, il faut le dire.
Ça n'est pas ni de l'ordre moral, ni de l'ordre de la saleté. Oui, ça n'a rien à voir. C'est très, très important. Ça, et ça fait partie aussi de la tradition, ça. On ne s'éloigne pas du sujet. Pourquoi ça n'a rien à voir? C'est parce que... Alors, il faudrait faire un travail très précis sur un certain nombre de passages du pur et de l'impur dans le Nouveau Testament. On fera ça une autre fois. C'est des choses très complexes. C'est que le pur et l'impur sont liés à la mort et à la vie. Donc, l'impur, quand on est impur, on est du côté de la mort. Quand on est pur, on est du côté de la vie. Donc, une femme qui perd du sang, elle perd la vie. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Voilà. Et donc, il faut qu'elle se reconnecte à la vraie vie en Dieu, de manière à repartir vers la vie, la vraie vie, et pas être dans la mort où le sang s'écoule. Donc ça, c'est bon, je vais très vite là, parce qu'il faudrait beaucoup développer.
C'est important.
Des arguments par rapport à la catéchèse pour justement tous les gens qui arrivent un peu des pays de l'Est, qui sous prétexte qu'elles sont dans des périodes particulières,
alors,
n'osent même pas rentrer dans l'église.
Oui, bien sûr. On en revient après.
Oui,
et pour continuer sur ce que vient de dire Père... Georges, c'est que le problème des relevailles, je pense, mais il faudrait relire la prière en détail, etc., c'est lié aussi au fait que la femme, elle jure de plus jamais avoir d'enfant tellement elle souffre. Elle dit c'est première et la dernière fois.
C'est ce que je voulais dire.
Et donc, ça veut dire qu'elle refuse de donner la vie. Donc, elle se jure que c'est fini, quoi. Bon, alors évidemment, elle va recommencer parce que c'est trop bien, quoi. Mais n'empêche que c'est tellement atroce pour elle que du coup, il y a toujours ce truc qui la traverse en disant, surtout qu'en plus, enfin, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui m'ont dit j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. En tout cas, pour le premier, quoi. Tellement, voilà, elle est traversée dans ce... Et donc, c'est pareil, on est toujours entre ce truc de vie ou mort, et donc, il faut se réconcilier avec la vie de manière catégorique, radicale, et repartir. Des vrais oui, des vrais non. Voilà.
Mais c'est vrai que ça demande quelque part...
Ouais, il faut expliquer.
Un chemin de relecture sur le temps pour arriver à dépasser le fait que ça serait une croyance,
voilà,
il faut
ça.
Simplement... elle a été impure, quoi, au sens premier que l'on entend et pas celui-ci.
Alors maintenant, pour en revenir à ce que vient de dire Stéphane, il y a l'autre problème. C'est qu'on sait que si un prêtre, avec la lance, au moment où il fait sa proscomédie dans le sanctuaire, il se coupe, il est obligé de quitter le sanctuaire tout de suite. Il ne peut pas, il faut qu'il se soigne immédiatement, parce qu'il ne peut pas être avec du sang qui coule dans le sanctuaire. Ça fait partie aussi des règles de la liturgie orthodoxe. Bon. Donc, il y a un lien avec cette question-là. Oui. Bon. Mais ce qu'il ne faut pas que la femme elle oublie, c'est que c'est pas parce que d'abord, le fait qu'elle... Alors, le fait, effectivement, que tous les 28 du mois, elle perde son sang, effectivement, il y a une perte de sang, donc on est dans un type d'impureté où elle n'a pas donné la vie, où cette perte de sang montre qu'elle n'est pas enceinte et que donc, elle n'a pas donné la vie. Voilà.
Ce n'est pas tous les 28 du mois.
Hein. Oui, oui, non, mais non, c'était...
Non, 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 dans le calendrier, c'est terrible. Oui.
Non, mais je veux dire... Oui,
il y aurait un problème tous les 28.
C'est
clair,
parce que par rapport à...
Alors, non, 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 mais alors, oui, oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc, ça, on peut le comprendre à un premier niveau, ensuite, à un deuxième niveau, la femme, elle ne rentre jamais dans le sanctuaire.
C'est le photographe.
Ah, peut-être, je sais pas.
Elle ne rentre jamais dans le sanctuaire. La femme, elle... Voilà, non, mais j'explique.
C'est surtout qu'il va falloir s'habiller pour pouvoir sortir.
J'explique le lien. Je termine là-dessus, on arrive. J'explique le lien entre le prêtre qui, voilà, qui est obligé de sortir du sanctuaire, mais la femme, elle ne rentre pas dans le sanctuaire. Personne ne rentre dans le sanctuaire en dehors des clercs.
Alors, et les diaconesses, la copine de Saint-Jean Chrysostome, les diaconesses, ont excusé.
Ben, je ne suis pas sûre qu'elle est entrée dans le sanctuaire, je ne sais pas.
Et les moniales.
Peut-être qu'elle n'avait pas ses règles. Pardon.
Les moniales dans les monastères.
C'est fréquent ça.
Je n'ai pas connu qu'ils
sont au service.
Ah oui, je sais. Je sais, moi, ça m'est arrivé, probablement, quand j'ai peint les fresques chez nous.
Ça existe.
Mais bon, donc c'est juste pour dire que,
vérité,
bon, que de toute façon, après, bon, comment on peut expliquer aujourd'hui l'évolution des choses, qu'on n'est plus au 18e siècle, mais n'empêche que la femme, elle peut parfaitement venir dans l'église, parce que de toute façon, en principe, elle ne rentre pas dans le sanctuaire, et elle peut parfaitement communier. Voilà, parce que ça fait partie aussi, elle est dans un cycle, qui est son cycle de vie, que de toute façon, elle ne peut pas tous les mois avoir un enfant. Enfin, je veux dire, bon, c'est même pour sa santé, je veux dire.
C'est intéressant. Ça veut dire que le fait, les femmes qui refusent de s'approcher de l'Eucharistie, voilà, parce qu'elles sont.
C'est ça que je voulais dire.
Oui, enfin moi.
On peut leur répondre pour une
année. C'est-à-dire, moi, par rapport à la femme hémorroïde, j'ai toujours eu du mal là-dessus. Ouais. Puisque Dieu accueille, le Seigneur accueille la femme qui
est. Le problème, c'est que je ne sais pas comment, dans les églises, en tout cas orientales, comment ça s'est institué ce truc. Parce qu'au premier temps, c'était pas comme ça.
Superstition.
Non, mais voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre par rapport à la femme pour comment ça s'est institué et voir le vice de forme de départ.
Mais ça venait pas peut-être de. Des juifs.
Enfin, voilà.
Non, moi je pense que dans les premiers temps de l'église, ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans les premiers temps de l'église, donc c'est pas du tout traditionnel.
Dans la Bible, dans la Bible, passé le temps de la purification, ils allaient au temple, par exemple.
Oui.
Donc il y avait un temps de purification où la femme restait chez elle. Alors comment. D'après ce que tu nous dis, il y a eu beaucoup d'interprétations après pour en faire quelque chose de très négatif.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et péché.
Oui, c'est ça. Oui, mais voilà. Je vous dis pur et impur, on n'a pas compris ce que c'est.
Voilà, voilà. Ouais. C'est ça. Ça. Voilà. Ça a été entendu par
sale et propre, morale et immorale. Enfin,
voilà. Ma mère est allée avec mon frère, parce que je me souviens, parce que j'étais assez grande, se purifier à l'église. C'était une tradition. Oui. On allait à l'église.
Mais nous, on sortait toujours.
Pour la première fois, on attendait un mois ou
40 jours.
La femme ne faisait pas de cours, bon, c'était une autre époque.
Mais elle ne sortait pas de la maison. J'ai reçu un monsieur
il y a 15 jours. En introduisant le thème en disant que finalement la tradition, ça a l'air d'être tout bête, hein, c'est de passer de la parole à l'acte. Donc comme je vous l'ai dit depuis le départ, la tradition c'est du vivant. Et vous souvenez qu'on avait lu Irénée qui explique il est assis au pied de Polycarpe qui lui-même avait été, et puis voilà, il écoute, et puis il a devant ses yeux ce qui se passe, il a dans ses oreilles les paroles, on sent quelque chose qui est du vivant. Et ce vivant, il est d'autant plus vivant que celui, et on avait dit aussi, on l'avait dit la dernière fois, que celui qui transmet, il a incorporé tellement qu'il vit ce qu'il transmet, et que c'est lui, il est transformé par la parole qu'il entend. Et que donc, ce n'est pas seulement une parole, c'est une parole qui s'incarne, et qui devient vivante, acte, et c'est ça qui transmet. C'est pas seulement une parole creuse comme un slogan. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc ça, c'est fondamental. Donc c'est la trans... enfin, pour moi, c'est pour ça que c'est très difficile
parole
de parler.
Incarnée.
Parole incarnée. Ouais. Pour ça que c'est difficile de parler. C'est qu'on se dit, mais alors, est-ce que je le vis, quoi, ce que je suis en train de dire?
Mais justement, voilà. J'ai un peu l'impression que, de nos jours, on est plus dans le passif par rapport à ça que dans l'actif. C'est-à-dire que on prend une parole pour une parole.
Voilà, c'est ça. On n'est pas suffisamment dans l'idée, voilà, que la parole, elle s'incarne.
Voilà, c'est ça.
On est un peu trop haut dans sa tête. Ouais. Mais quand on lit l'Évangile, si on voit bien dans l'Évangile, on a tout le temps plein d'indications concrètes, mais c'est comme si on ne la prenait pas au sérieux, cette parole. Voilà. Hein, mais c'est pas normal. On devrait prendre la... presque, pas de manière fondamentaliste, hein, mais il faudrait presque prendre les choses au pied de la lettre. Et quand Jésus dit, je sais pas, j'ai rien en tête là, ne prenez pas le chemin des Samaritains, etc. Bon, bah, c'est quoi le chemin des Samaritains pour nous? Pourquoi il faut pas prendre ce chemin? Voilà. Donc quelque chose qui s'incarne, qui est concret, ou n'importe quoi. On va prendre n'importe quoi.
La parole à certains moments qu'on trouve un peu infantile dans sa manière de dire. Ça, on ne comprend plus.
Bah oui, mais enfin, on sait bien que ce que Jésus nous dit, c'est pas infantile, quoi. Donc c'est là où c'est pas normal.
Oui, absolument, mais ça, c'est un peu.
Il y a quelque chose. Voilà, c'est un peu le problème. Ouais, c'est sûr que. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, donner comme. Quelqu'un a un évangile, là, on ouvre n'importe quelle page. Hein. Par exemple, bon, les béatitudes. Voilà.
Oui,
bon. Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs. Ils verront Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être un cœur pur et c'est quoi voir Dieu?
Voilà.
Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire purifier son cœur de manière à voir Dieu? Voilà. Heureux les artisans de paix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être artisan de paix? Il ne faut pas non plus que j'écoute ça, ouais, artisan de paix, puis que je me tourne les pouces, quoi. Attends, heureux les artisans de paix. Est-ce que je vais être heureux ou pas? Voilà, donc si je veux être heureux, il faut que je sois artisan de paix. Qu'est-ce que je fais là, autour de moi, là? Juste, ne serait-ce que dans ma famille, déjà dans ma famille, parce que bon, si on commence à passer à parler du Kosovo, de la Syrie, de l'Irak et machin... Bon,
chacun pour soi dans son petit domaine...
Bon, et puis bon, est-ce que je mets de la paix, là? Est-ce que là où il y a des conflits, j'arrive et qu'il y a de la paix? Voilà. Ben, si je n'ai pas fait ça, je ne vais pas du tout écouter la parole de Christ, quoi. Etc, etc, enfin, je veux dire. Et donc, c'est ça, c'est... Il faut prendre les choses au sérieux. Voilà, prendre la parole au sérieux, je pense que... Donc, la faire passer... Exemple, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ça veut dire quoi, de toutes les nations faites des disciples? Ça veut dire que... Alors ça, on pourra en reparler. Ça veut dire que tant que le monde entier n'a pas été touché par l'Évangile, c'est comme si la fin des temps ne pouvait pas venir. Parce que nous, c'est notre responsabilité, c'est de toucher les nations, pas Israël, hein, les nations.
Oui.
Pourquoi? Parce que toute la Bible distingue Israël et les nations. Et là, c'est les nations. Donc les seuls dont on n'a pas à s'occuper, c'est Israël. Tous les autres, c'est les nations. Et donc c'est aux nations qu'il faut qu'on on annonce la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'on les baptise. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est une fois que toutes les nations auront découvert le Christ, qu'à ce moment-là, Dieu s'occupera d'Israël. Et ce n'est pas à nous de nous en occuper. Et donc c'est une longue, c'est pour ça qu'on a une longue, longue, longue responsabilité. Très lourde. Hein, très, très, très lourde. Donc, première chose, première étape, donc, la foi. Donc, je reçois la parole du Christ, j'ai la foi. Deuxième étape, je confesse cette foi. Je la confesse, donc, credo, hein, entre guillemets, ou prémisse du credo. Et troisième étape, je la mets en acte. Voilà, donc ça, c'est des étapes de la tradition qui doit s'incarner et sur le plan ecclésial et sur le plan personnel pour chacun.
Mettre en pratique la parole.
Voilà, voilà. Et l'incarnation première de cette foi que j'ai reçue et que j'ai proclamée, c'est le baptême. D'ailleurs, entre guillemets, c'est ce que fait l'eunuque. L'eunuque découvre, il ne comprend pas, il se fait expliquer, il a un guide, il voit qu'il reçoit une illumination intérieure, mais vraiment, parce qu'il aurait pu lui dire à Philippe, bon, ton truc c'est bien, enfin, franchement, je vois pas le rapport entre la brebis et Jésus, quoi. Il adhère immédiatement, il y a quelque chose qui s'ouvre en lui, il adhère, et après il demande d'être baptisé. Qui est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et c'est lui qui fait la démarche. Donc ça, c'est très important, c'est une démarche C'est pas une démarche passive, c'est une démarche active. Hein, ça, c'est très, très, très important. Et c'est à partir du moment où il fait cette démarche active et qu'il va l'incarner qu'après, il peut la transmettre. C'est-à-dire que cette nuque, ça va devenir un des apôtres, c'est sûr. Ah, il sera disciple, quoi. C'est sûr, parce qu'il va... Il a déjà montré par sa foi, par son écoute, la manière dont il a entendu. Il a dit, j'ai pas de guide. Donc, ça veut dire qu'il a reconnu qu'il avait besoin d'un guide. Parce que quelqu'un qui dit, je me débrouille, bon. Donc, il a besoin d'un guide. Donc, il y a une humilité. Il reconnaît. Et il dit, je veux être baptisé. Bon, bah, c'est qu'il y a un peu de temps, dans le trajet, à la moitié du trajet, il a compris tout le mystère de l'Église, quelque part. C'est incroyable, quoi. En fait, quand on regarde cette tenue, c'est incroyable. Ça va très vite.
Oh, il était déjà prêt, hein. Il venait adorer Dieu. Et...
Oui, oui, ah, oui, oui, je pense que c'est un vrai prosélyte ou un vrai. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est... Voilà. Donc, la vie concrète de l'Église, c'est cette tradition qui va s'inscrire dans ce qu'on appellera après les sacrements. Hein, dont le mot grec est mysterion, hein, mysterion, le mystère. Donc ça c'est très important. Alors maintenant on va essayer de regarder d'un peu plus près le baptême, puisque c'est quand même le premier sacrement. Alors quand on regarde ce que nous dit Justin, 2e siècle, ce que nous dit Hippolyte, 3e siècle, on a un certain nombre de descriptions d'un rituel, d'un début de rituel de baptême. Par exemple, Justin nous dit, ceux qui croient la vérité de notre enseignement et de nos paroles permettent d'abord de vivre selon cette doctrine. Donc ils vont vouloir vivre selon cette doctrine qu'ils croient. L'enseignement et les paroles. Et une fois qu'ils vont vivre selon cette doctrine, Justin ajoute, nous leur enseignons ensuite à prier. Donc on reçoit tout dans l'Église. On reçoit, qu'est-ce que ça veut dire prier? Comment on prie? Et une fois qu'on fait cela, nous demandons à Dieu avec le jeûne le pardon de leurs péchés. Donc on enseigne le jeûne. Donc le jeûne est très 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 ancien. Hein. De toute façon, il nous vient des Juifs. Hein. Très très ancien le jeûne. Donc, pour se préparer au baptême, on a l'enseignement, la doctrine, on croit, on apprend à prier, on jeûne. Et à ce moment-là, le pardon des péchés ici, c'est évidemment le baptême. Quoi. C'est le baptême qui va nous plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Et donc, cette histoire de jeûne, c'est très important parce qu'on apprend tout de suite dans la tradition de l'Église que, excusez-moi, je vais parler en termes de théologie contemporaine, qu'il y a la personne et la nature. Ce qu'on a développé, nous, beaucoup dans la tradition orthodoxe, est que la nature, ben, c'est le bios, c'est ce dont le corps a besoin pour vivre. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de sommeil, un certain nombre de besoins. Ces besoins doivent être évidemment respectés parce que la nature est très importante, mais la personne est au-dessus de la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas les besoins qui vont guider l'homme, c'est la personne qui guide les besoins de l'homme. Et donc la personne va décider elle-même de manger moins, de manger, de plus pas manger tels aliments à tel moment. Donc, et c'est ce jeûne-là qu'enseigne l'Église et qui avait déjà été enseigné depuis Moïse. Hein, c'est-à-dire cette suprématie de la personne sur la nature. Et pourquoi? Parce que si l'homme ne sait pas dominer sa nature, donc avec tout aspect de passion, il ne pourra jamais mettre en pratique la parole de Dieu. Tout simplement. Donc, et c'est pour ça que le jeûne, bon, on ne le fait plus malheureusement aujourd'hui d'ailleurs, ça serait une question qu'on pourrait se poser, pourquoi on ne jeûne plus avant le baptême? Est-ce qu'on le fait encore? Est-ce qu'on ne le fait plus? Bon, enfin. Mais si on enseigne le jeûne avant le baptême, donc le baptisé, il n'est pas encore baptisé, il n'est pas encore dans l'Église, c'est pour lui apprendre tout de suite que la domination de la nature fait partie de la... Premièrement de la tradition, et deuxièmement de la manière dont il va inscrire la parole de Dieu dans sa vie. On réalise pas, quoi, mais c'est énorme. Parce que celui qui laisse le corps le dominer ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que si nous ne vivons pas la vie chrétienne de manière corporelle, nous ne la vivons pas du tout. Voilà, tout simplement. Donc la vie chrétienne se vit corporellement, elle ne se vit pas comme ça dans une espèce d'idée un peu bizarre. C'est pour ça que nous, bon, on a cette tradition des carêmes, hein, qui non seulement des quatre carêmes de l'année, mais aussi des carêmes du vendredi et du...
Bon, on est tout le temps en carême.
Et du mercredi. Bon, alors après, chacun va essayer d'aménager. Bon, faut pas être trop, pas non plus être strict, être complètement obnubilé. Mais n'empêche que on nous a appris dans l'Église, voilà, mercredi, vendredi, les quatre carêmes de l'année, voilà. Et on le sait maintenant. Comment on le gère? Alors, quand on est en voyage, on sait qu'on a des économies. Comment on le gère et comment on... Y a, et on sent que c'est utile, parce que ça rythme la semaine, ça rythme l'année liturgique. On sent qu'on a besoin de passer par une certaine purification corporelle pour entrer dans ce que Dieu nous propose, tout simplement. Parce qu'on a commencé à l'expérimenter, parce que l'Église nous l'a appris. Ça, c'est encore la tradition. C'est fondamental, parce que si l'Église nous apprendrait pas ça, c'est pas nous qui l'apprendrons tout seuls, quoi. Demander à un enfant de s'abstenir de manger, s'il n'est pas convaincu que c'est important, il ne fera pas, quoi. D'ailleurs, on ne demande pas à un enfant de faire les carêmes avant l'âge de 7 ans, normalement. Hein. On peut, s'il veut, il peut. Mais en général, c'est à 7 ans où on demande de commencer à suivre la règle de l'Église. Et alors, Saint-Justin continue. « Lorsque nous les avons conduits à l'endroit où il y a de l'eau et qu'ils ont été régénérés comme nous l'avons été nous-mêmes, ils sont véritablement purifiés dans l'eau au nom du Père et le Seigneur de l'univers, de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit. » Ça veut dire que déjà du temps de Justin, on baptisait bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel est l'enseignement des apôtres qui nous a été inscrit. Il s'agit donc bien de l'enseignement depuis le début. Donc Justin répète sans arrêt, tel est l'enseignement des apôtres. Alors qu'il est au deuxième siècle. Donc on a intérêt aussi à répéter, nous, parce que 20 siècles plus tard. Alors, on va essayer de regarder. Alors oui, alors il continue Justin. Sur celui qui désire être régénéré et qui se repent de ses péchés, on invoque le nom de Dieu, Père et Seigneur de l'univers, et aussi le nom de Seigneur Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce Pilate, et le nom du Saint-Esprit qui a amené par les prophètes toute l'histoire de Jésus-Christ. Et alors, il y a l'idée aussi qu'il a été véritablement crucifié le jour avant le samedi, et le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, il est apparu à ses apôtres et il leur a enseigné cette doctrine. Voilà. Hein, donc, Justin, il est... Et donc là, on a un peu un résumé aussi du credo à la manière de Justin. Donc, croyance en la parole de Dieu, changement de vie, prière, jeûne, repentir, transmission de l'enseignement des apôtres, confession de la foi trinitaire. Tout cela constitue la tradition qui est déjà contenue dans la Bible et qui nous a été transmise par l'Église. Alors, on va regarder donc Justin Martyr, page 2 du Poli numéro 2, où, voilà, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aller rechercher dans les premiers, hein, parce que c'est quand même incroyable. Incroyable ce que c'est vivant pour nous. Si quelqu'un veut bien le lire, il faudrait qu'on s'arrête. Ça va, vous m'aurez pas trop de temps, on peut le lire et puis on s'arrête après.
Le poli 2, c'est la page 2.
Justin Martyr, première apologie pour les chrétiens. Alors, je vais vous passer comme ça. Quelqu'un le lit, on ne va pas attendre une heure. Hein.
Non, je vais.
Moi, allez, arrêtez.
Nous allons.
C'est parti. Vas-y, Christine.
Nous allons vous exposer comment, après avoir été renouvelés par le Christ, nous nous consacrons à Dieu. Ceux qui sont convaincus de la vérité de notre doctrine et de notre parole et qui y croient, promettent de vivre selon cette doctrine. On leur enseigne à prier et à demander à Dieu, en jeûnant, le pardon de leurs péchés passés. Et nous-mêmes, nous jeûnons avec eux.
Ce qu'on disait il y a 5 minutes, tu étais en retard, c'est qu'on a peut-être perdu le jeûne avant le baptême.
Ah oui, absolument.
Ça, c'est important. Ouais. Parce que vraiment, le jeûne était demandé avant le baptême. Ouais.
Ensuite, ils sont conduits par nous au lieu où se trouve l'eau. Et de la même manière que nous avons été régénérés pour nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père, Maître de l'univers, de notre Sauveur Jésus-Christ, et de l'Esprit Saint, ils sont alors lavés dans l'eau. Le Christ a dit en effet, si vous ne renaissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il est évident pour tout le monde que ceux qui sont nés une fois ne peuvent pas rentrer dans le sein de leur mère.
Donc vous voyez l'allusion à quoi c'est fait ? Nicodème. D'accord, continuons.
Le prophète Isaïe a enseigné comment les pécheurs convertis échapperont à leurs péchés. Il a parlé ainsi. Lavez-vous, purifiez-vous, enlevez la méchanceté de vos âmes, apprenez à faire le bien, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Et si vos péchés sont comme la pourpre, je vous rendrai blanc comme la laine. Et s'ils sont comme l'écarlate, je vous rendrai blanc comme neige. Et si vous ne m'écoutez pas, l'épée vous dévorera. C'est la bouche du Seigneur qui a parlé. Voici la doctrine que nous ont léguée les apôtres à ce Christ.
Vous rendez compte le nombre de fois que le mot apôtre vient. C'est sans arrêt. Hein.
Nous avons reçu la première naissance sans le savoir, par une loi nécessaire, par suite de l'union de nos parents, et nous sommes venus au monde avec des habitudes vicieuses et des mœurs mauvaises. Pour que nous ne demeurions pas les enfants de la nécessité et de l'ignorance, mais du libre choix et de la connaissance, et pour que nous obtenions dans l'eau le pardon de nos péchés passés sur celui qui veut renaître et se convertir à ses péchés. On invoque le nom du Seigneur, du Père de l'univers, notre Dieu et Maître. On ne lui donne pas d'autre nom, celui qui conduit au baptême, le candidat. Car personne n'est capable d'attribuer un nom au Dieu qui est au-dessus de toute parole. Et si quelqu'un ose prétendre qu'il en a un, est atteint d'une folie mortelle. Ces mots, Père, Dieu, Créateur, Seigneur et Maître, ne sont pas des noms, mais des appellations motivées par ses bienfaits et par ses œuvres. Le mot Dieu n'est pas un nom, mais une approximation naturelle à l'homme pour désigner une chose inexplicable. Ce bain du baptême est appelé illumination, parce que ceux qui reçoivent cette connaissance sont illuminés. C'est aussi au nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate, et au nom de l'Esprit Saint qui proclamait d'avance par les prophètes tout ce qui se rapporte à Jésus. C'est en leur nom qu'est baptisé celui qui reçoit la vie.
C'est beau, hein ?
Ouais, c'est très beau.
Ça vous paraît limpide ou ça vous paraît compliqué ? C'est limpide, hein ? C'est... Ouais, je trouve ça extraordinaire. Je suis pâmée, moi, devant ces textes. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter. Franchement, c'est...
Ben non.
C'est grandiose, quoi. C'est vraiment...
Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du jeûne.
Oui.
Tu parlais seulement du jeûne eucharistique ou il y avait autre...
Non, du jeûne qu'on fait avant le baptême, notamment.
Ah, donc, oui, comme du carême, en fait.
Voilà, une espèce de sorte de carême, ouais.
Alors justement, ça me faisait penser à quelque chose. C'est que, bon, quand on parle du jeûne, on ne parle pas forcément de jeûne alimentaire.
Oui.
Et je pensais, pour un enfant, un petit enfant, parce que je l'ai vécu comme ça aussi, un petit enfant qui allait se faire baptiser, c'est qu'il y avait avant la présentation au temple. Et dans cette présentation au temple, eh bien, l'enfant n'était pas rendu à la mère. J'ai envie de dire que l'enfant... on lui proposait pour la première fois le jeûne de sa mère.
Oui.
Et qu'il était, après la cérémonie, remis à son futur parrain ou marraine. Personnellement, je trouve que c'est une forme de jeûne, parce que l'enfant le vit d'une certaine manière.
Il y a une frustration.
Cette frustration des bras de sa mère, je l'ai vécu, ça a été extraordinaire de cette rupture de lien premier, hein, fait entre l'enfant et la mère, où il en sortait quelque chose d'assez lumineux aussi. Pour moi, ça correspond à une forme de jeûne.
Mais c'est pour ça aussi que le baptême par immersion est très important. Parce que le prêtre, c'est le prêtre qui prend l'enfant. C'est pas la mère qui le garde et on
voilà,
lui donne.
Exactement.
Le prêtre l'arrache presque des bras de la mère.
Voilà, et d'ailleurs, ça, c'est une forme de jeûne.
C'est la fête qu'on vient de fêter, la Sainte Rencontre. Je veux dire, c'est la mère, elle porte l'enfant et c'est Siméon qui le prend. Et c'est fini, quoi.
Voilà.
Et ça, c'est. Et sur le plan et symbolique et réel,
la symbolique et la réalité.
Et c'est là où corporellement, c'est ce que je disais. Là, on met en acte corporellement une tradition.
C'est pour ça que moi, ça, c'est, ça correspond à une forme de chose.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors c'est vrai que bon, pour nous, on a tendance à accentuer,
voilà, souvent non plus systématiquement.
À accentuer, l'aspect du jeûne alimentaire. Bon, parce que c'est, mais c'est vrai qu'il y a plein de prêtres d'ailleurs sur le plan pastoral qui expliquent, bah, vous arrêtez la télé pendant tout le carême, etc. Il y a plein d'autres jeûnes possibles également. Quoi. Et puis si on est là et qu'on est frustré de ne pas manger et qu'on finit par bouffer son frère, il vaut peut-être mieux, il vaut peut-être mieux manger son sandwich au jambon.
J'ai des souvenirs d'un de mes prêtres dans ma jeunesse lointaine, qui était un gros fumeur, qui pendant les carèmes s'arrêtait de fumer.
Ah ouais, ça c'est un énorme.
Mais alors, autour, ça morflait.
Ah ouais, c'est ça.
Oh là là. On lui disait, père, tu veux pas en reprendre une? Tu sais pas où tu as mis ta pipe après il fumait la pipe. Oh là là, il était infernal. C'est pas tout à fait le sens du jeune. Non, le coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeune qui peut te.
Ah oui, c'est vrai que ça rend agressif le jeune, ouais. Quand on a faim.
Enfin, ça peut.
Mais ça peut,
ça dépend comment c'est vécu. Ça peut.
Mais c'est que pour victoire sur soi-même, ça n'a pas tout le sens spirituel.
Ouais.
La raison pour laquelle l'Église propose beaucoup plus d'offices pendant le carême pour lutter
contre voilà.
Cette tendance, pour être nourri spirituel.
Mais c'est pour le réinscrire dans
voilà,
c'est ça. Quand même de
les
élèves. Pas...
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est pour le remplacer, on enlève quelque chose qui nous tient aliéné plutôt,
oui.
Et
oui.
On le remplace par la prière qui va nous libérer.
Voilà,
l'idée, c'est ça, on ne laisse pas du vide.
Voilà, c'est ça.
Donc,
et c'est là où on voit à quel point l'Église est pédagogue. L'Église est une vieille grand-mère, parfois elle a des cheveux blancs, des grosses rides et des dents cassées et qu'elle nous énerve, mais n'empêche qu'elle est très pédagogue parce qu'elle a 2000 ans et elle sait comment il faut faire. Quoi. Et c'est ça que je trouve qui est grandiose aussi dans la tradition, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui sait. Voilà, donc, et il faut qu'on ait l'humilité de dire, bon, ben moi je suis là depuis, sur Terre depuis 40 ans, 50 ans, elle est 2000 ans. Quoi. Donc 2000 ans, elle a une expérience, donc je peux aller lui demander un certain nombre de choses et je vais avoir mes réponses. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens qui ont peur de ces trucs de tradition, désuet, on vous met dans un moule, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est... Mais bon, il faut expliquer, parce qu'on est, tellement binaire, surtout dans notre monde occidental, c'est vrai, blanc, rouge, noir, machin, vrai, faux, tout, c'est pas ça, quoi. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus pédagogique pour chacun. C'est-à-dire, l'Église, elle s'adresse à chacun de manière personnelle, elle ne s'adresse pas à un magma... un fort, quoi, hein, on est des personnes. Quoi. On va terminer avec Basile de Saint-Lazare, puis on va faire la pause parce qu'on a faim. Je ne veux pas s'énerver. Allez, comme on n'a que quelques lignes avec Basile, quelqu'un veut nous lire Basile ?
Le baptême vise un jour.
Alors, Basile, c'est 4e siècle.
Voilà.
Donc, vous voyez, on passe du début du 2e au 4e siècle. On fait un saut, mais énorme, où on voit qu'on a maintenant une théologie du baptême. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant aussi par comparaison.
Le baptême vise un double but : abolir le corps du péché pour qu'il ne fructifie plus pour la mort, vivre de l'esprit en portant des fruits de sainteté. L'eau offre l'image de la mort en recevant le corps comme en un tombeau. L'esprit infuse la force vivifiante en rénovant notre vie de l'état de mort dans le péché à l'état de vie originelle. C'est cela, renaître d'en haut, de l'eau et de l'esprit. On meurt dans l'eau, mais l'esprit opère en nous la vie. En trois immersions, en trois invocations, le grand mystère du baptême s'accomplit. Pour que le symbole de la mort soit représenté, et que la communication de la connaissance de Dieu illumine les baptisés.
Là, on a tout là. On a toute la théologie du baptême. Et vous remarquez que Basile, comme Justin, fait allusion à cette deuxième naissance dont Jésus parle chez Nicodème. Donc on sent que dans l'Église primitive, le passage de Nicodème avec cette renaître d'en haut d'esprit est fondamental pour la théologie du baptême. Quoi. Fondamental.
C'était des adultes. C'était des adultes, là.
Oui. Oui,
à l'époque.
Un thème d'adulte.
Oui, à l'époque, oui.
Oui et non, parce qu'on ne sait pas. Là, on pouvait avoir des enfants aussi.
Basile, oui, des enfants.
Au 4e siècle, oui, c'est possible.
C'est possible, très bien.
C'est possible. Simplement une l'idée de l'abolition du péché.
Oui.
Le prêtre, lorsqu'il donne la communion, dit « Il t'est donné à toi » et il nomme, mm-hmm. parce que c'est un don personnel que l'on reçoit. On le reçoit en Église, c'est un don qu'on reçoit en Église. Le corps très pur et le sang très précieux de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et la vie éternelle. Lorsqu'il donne la communion au baptisé,
voilà, il ne dit pas
pour la rémission de tes péchés, il dit simplement pour la vie éternelle. Et ça, moi, je sais que chaque fois que je le dis, et je baptise assez souvent, donc je... Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, mais c'est vrai là, c'est vrai que là, il a reçu, c'est un être sans péché qui reçoit. Voilà, quoi ça. Qu'il ait pu faire avant, c'est, ouais. Ça c'est quand même extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Parce que dans les baptêmes d'enfants et de petits-enfants, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Bon, probablement ont-ils déjà des péchés parce qu'il suffit de voir combien il y en a qui sont coquins, mais voilà. Mais quand on baptise un adulte, c'est quand même quelque chose d'un peu extraordinaire, quoi. Mmh. Extraordinaire.
Mmh. On est dans le mystère, là.
Hein?
On est dans le mystère. Du sacrement.
Et il faut après expliquer aux gens qu'effectivement, ce qu'ils ont commis les habite encore. Ça leur a donné des... Il y a des choses qui se sont développées à partir de là, mais que dans leur cœur, dans leur âme, ça n'existe plus. Ça a été pardonné. Ça a été lavé. Mm. Pas pardonné. Pardonner, c'est de la pénitence. Ça a été lavé. Mm. Ça, c'est le mystère, ça, quand même.
Mm. Mm. Et pour Justine, tu disais... peut-être que c'est si clair, effectivement, et c'est fabuleux, mais il se devait peut-être de faire sa doctrine comme ça, parce que c'est lui le premier qui a fait l'apologie auprès d'empereur pour essayer d'enlever toutes les rumeurs qu'il y avait sur les chrétiens, notamment pour l'Eucharistie, non, c'est ça,
c'est
pas lui
qui a... C'est possible, j'ai pas tout en tête.
Mais... Parce qu'on disait qu'il y avait des problèmes de cannibalisme, oui. Qu'il y avait des orgies, enfin, ça oui. C'était l'extérieur.
Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, surtout du temps de Justin, avant le 4e siècle, les chrétiens sont persécutés. On est dans un empire païen, les chrétiens sont persécutés. Et parce qu'il y a des calomnies, des choses qui circulent sur eux qui sont insensées. Quoi. Et donc, il y a forcément. Ah, il faut expliquer un peu les choses, mais je pense que ce type de textes sont quand même plus au niveau interne. C'est-à-dire que c'est plus pour accueillir les catéchumènes que pour... il me semble. Mais bon,
c'est Basile.
Oui, c'est ce Basile-là.
Ah, c'est ce Basile.
Oui, c'est Basile
ou César. Oui, c'est Basile ou César. Et Jacques-Christophe.
Bon, on terminera le baptême tout à l'heure, après le repas, avec Augustin et Théodore, et puis on passera à l'Eucharistie.